Bonsoir et bienvenue dans Une Heure en Série, la première des deux émissions spéciales consacrées à la révélation du top 20, soit les 20 meilleures séries de tous les temps. Nous allons commencer ce samedi et nous terminerons samedi prochain, soit le 28 décembre. Ces 20 meilleures séries de tous les temps ont été choisies par l'équipe au grand complet de Une Heure en Série, vous en connaissez beaucoup. Elles sont au pluriel et ils au singulier, tous présents ou presque autour de ce plateau. Ariane Allard, bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Caen,
bonsoir,
Ava Marjolaine Boutet.
Bonsoir.
Isabelle Danel.
Bonsoir.
Bonsoir. Christine Haas.
Bonsoir.
Et Marie Sauvion qui ne pourra pas être avec nous ce soir, mais il y aura peut-être une petite surprise. Et puis, n'oublions pas quand même le digne représentant et solitaire un peu de la chambre masculine.
Salut Xavier.
Bonsoir Benoît. Alors, vous n'avez pas l'image, mais Benoît s'est habillé comme un des personnages principaux de Cosmos 1999. Nous voudrions rendre hommage.
C'est un hommage pour vous, Xavier.
Peut-être que la série est dans le top 20. Nous ne savons rien encore pour l'instant. Ils ne sont pas les seuls à avoir voté. C'était trop sérieux pour que je leur confie une mission aussi périlleuse quand même. Donc, je me suis adjoint à l'aide de Marie-Annick Rimbaud, notre précieuse réalisatrice. Amel Kaldi, notre indispensable attaché de production, mais également Muriel Pérez et Thierry Dupin, qui sont programmateurs musicaux à Radio France, et Étienne Bertin, qui est réalisateur.
Une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Ça trépigne, hein, ça veut savoir, hein, ça suppute, ça parie, je vois de l'argent en train de s'échanger. Eh bien non, pas du tout. C'est absolument en dehors de toute forme de corruption. Nous avons été très honnêtes dans notre manière de voter et nous allons révéler dans quelques instants qui est le 20e, la série en tout cas qui porte le numéro 20 de ce classement.
Ma sorcière bien aimée.
Ben voilà, on entend une petite voix qui était celle derrière là.
C'est un bâtard qui a parlé.
Mais oui, absolument. 8 saisons, 254 épisodes diffusés entre 1964 et 1972 pour ABC, c'est une satire joyeuse de l'American Way of Life des années 60, créée par Saul Sachs. Samantha, ravissante sorcière, tombe amoureuse de Jean-Pierre Stephens, un simple mortel. À la demande de son mari, elle promet de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs, mais c'est sans compter sur notre personnage préféré, évidemment, Andorra, envahissante mère de Samantha, qui n'accepte pas du tout, mais alors pas du tout, de voir sa fille traitée comme une bonne à tout faire.
Dire que tant d'années de soins maternels ont abouti à ce spectacle révoltant de ma fille à quatre pattes essayant de tirer du sol des oignons.
Je n'essaie pas de tirer du sol des oignons, je suis en train de planter des glaïeuls.
Je suis en train de te rendre ridicule, voilà.
Oh, maman, essaie de comprendre les choses, je t'en prie. Il est tout à fait normal de mettre des fleurs autour de sa maison, c'est ce que font toutes les femmes. Et puis je trouve que planter des graines et les voir devenir des fleurs, c'est un miracle que nous offre la nature.
Oui, j'ai eu l'occasion de contempler un autre miracle de la nature ce matin. Quand machin chouette, enfin ton mari, est parti je ne sais où en te laissant toute seule.
Oui, seule parce que je ne tenais nullement à le voir se couvrir de ridicule avec son bâton.
Tu n'es pas sérieuse.
Voilà, et pour parler de Ma sorcière bien-aimée, cette grande série qui a libéré la femme du foyer, bien évidemment.
Complètement.
Et ben, Benoît Lagarde,
voilà. Oui, vous faites pas si bien dire. En fait, non, mais c'est vrai, moi, j'aimerais bien être une petite souris et regarder Ma sorcière bien-aimée à l'époque, quand ça passait. Parce que finalement, cette série, elle a marché et elle a marqué parce que elle renversait déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'idiot dans le couple, c'était pas la femme, c'était l'homme. Et en 64, déjà, c'était un geste. Créer un couple mixte aussi, parce que finalement, elle était sorcière, lui était wasp. C'était aussi un renversement assez intéressant. Alors c'était une série qui était écrite par Saul Sachs, qui était un habitué des sitcoms de l'époque, et la série a bien fonctionné pour un public tout familial grâce à plein de personnages. Alors vous avez cité Andorra, bien évidemment, ça c'était pour plaire aux belles-mères, mais il y avait Tabata qui plaisait aux enfants. Ça commençait par un dessin animé signé de la Hanna-Barbera, ceux qui ont fait Scooby-Doo, les pierres à feu, donc ça touchait tous les publics. Et la série, qui était une sitcom tout à fait classique, a renversé complètement les choses à ce moment-là, donc à cette époque. Et puis nous, public français, on découvrait Jean-Pierre. D'ailleurs, pourquoi Jean-Pierre, hein? Pourquoi s'appelait Jean-Pierre dans une série américaine? Moi, je me suis souvent posé la question. En fait, il s'appelait Darin, hein, dans la version originale. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que déjà, il y a un casting parfait. Elizabeth Montgomery dans le rôle de Samantha, Dick York, mais qui a été remplacé par Dick Sargent un peu plus tard.
Oui, il y a eu deux
Jean-Pierre. Parce qu'il y en a, le premier était malade, donc il a été remplacé par le second. Le premier était quand même plus performant que le second, mais ça fonctionnait aussi. Agnès Moorehead, justement, qui incarner le rôle d'Andorra, ça marchait bien. Du coup, il y avait tout pour que ça fonctionne. Un beau casting, une belle histoire qui renversait un petit peu les clichés de l'époque. C'est sans doute pour ça que ça a marché, et ça a marché surtout partout dans le monde. En France, c'est passé dès 1966, deux ans après la création aux États-Unis. Ça a été diffusé, rediffusé, rediffusé. Tout le monde l'a vu. C'est peut-être pour ça que c'est d'ailleurs dans ce top 20, parce que ça a marqué toutes les générations et que ça plaît à toutes les générations. Et puis alors, à revoir. Alors, l'humour.
Mon pouvoir de sorcière va être de vous interrompre, cher Benoît.
Un dernier mot pour dire que, revoyez aujourd'hui, l'humour fonctionne encore très bien.
Ma sorcière bien-aimée, 20e de ce top 20. Il est temps de révéler la série qui est à la place 19.
Un chat borgne. Une enquêteuse blonde.
Non mais virez-le, quoi. Non,
c'est pas possible.
Cold Case, cette saison. Bah, on vous l'a retiré. 156 épisodes, 42 minutes, diffusés entre 2003 et 2010 sur CBS. Vraiment une série formidable créée par Meredith Steam, à laquelle on doit également la version américaine de The Bridge avec Diane Kruger. Bon, ça, c'est plus oubliable, hein. Lily Rush, inspectrice à la brigade criminelle de Philadelphie, a pour spécialité de rouvrir des enquêtes jamais résolues et depuis longtemps enterrées.
Larry, c'est Lily Rush, de la criminelle. Il faut que je vous parle de Gail.
Je vous parle à vous, pas à lui. Grandis un peu.
Ouvrez la porte, Larry. L'inspecteur Vera va aller faire un petit tour.
Ce type est malade, hein?
Rien dans ce mot qui vous fasse penser à Bruce Elridge?
Le ton arrogant correspond. Il était tellement snob, c'est vrai, il vous disait jamais bonjour.
Donc vous ne le connaissiez pas très bien?
Non.
Vous avez dit aux appels d'urgence que vous pensiez que Gail et son petit ami se bagarraient dans l'appartement d'à côté. Si je peux me permettre...
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre franchir la porte de cet appartement.
Quelle était la nature de votre relation avec Gail ?
Marjolaine Boutet sur Cold Case, vous la connaissez bien, vous avez écrit un livre dessus.
Je la connais un petit peu par cœur. C'est une série effectivement qui est très chère à mon âme parce qu'elle reconstitue l'histoire des États-Unis au XXe siècle et particulièrement la lutte des minorités pour l'égalité.
C'est mais la elle face met cachée en scène de l'histoire, aussi... hein, vraiment.
Oui, alors c'est une vision très progressiste de l'histoire des États-Unis, mais elle met aussi en scène la pratique de l'histoire, parce qu'en fait, Lily Rush, donc l'héroïne, elle fait de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir les archives, qu'elle réinterroge les témoins et qu'elle compare donc leur dire et les traces du passé avec ses connaissances d'aujourd'hui. Donc c'est une flic et surtout une historienne. C'est surtout une série qui a une bande son absolument démente. Il y a 1037 chansons, je les ai comptées, qui commentent et enrichissent l'action. Et c'est à cause du montant des droits musicaux de ces 1037 chansons qu'elle ne sera jamais éditée en DVD. Et donc là, merci la TNT, parce que Cold Case continue à diffuser et rediffuser à toute heure du jour et de la nuit. En ce moment, c'est sur TMC et je vous la recommande si vous ne l'avez pas vue et même si vous l'avez déjà vu, parce que ça se revoit avec beaucoup de plaisir. Ajoutez à cela le charme donc de Catherine Morris en Lily Rush, femme flic, célibataire, sans enfant, totalement dévouée à son boulot et à son chat borgne. Et vous avez tous les ingrédients d'une excellente série de Network et qui en plus est de gauche.
Et s'il ne fallait garder qu'un épisode, celui consacré au Rocky Horror Picture Show, qui est à la fois bouleversant, poignant et extrêmement drôle. Merci beaucoup Marjolaine, qui occupe la place 18. Alors, qui reconnaît le générique ? Trou détective, bravo Isabelle Danel. Une série d'anthologie créée et écrite par Nick Pizzolatto. Trois saisons à ce jour depuis 2014, 24 épisodes diffusés sur HBO et un casting de stars renouvelé chaque année. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Vince Vaughan, Stephen Dorff, deux détectives, un crime sordide et une enquête compliquée. On peut résumer un peu comme ça le pitch de chaque saison. On écoute un petit extrait.
Les gens d'ici... Je dirais qu'ils savent même pas que le monde extérieur existe. Ce serait pareil pour eux de vivre sur la Lune.
Il y a toutes sortes de ghettos dans le monde.
Tout ça, c'est un seul grand ghetto, Marty. Un gigantesque caniveau perdu dans l'espace.
La scène de crime, aujourd'hui. J'avais jamais vu un truc barré à ce point-là. Je peux te poser une question ? T'es chrétien, pas vrai ?
Non.
Alors, pourquoi t'as une croix dans ton appartement ?
C'est pour une forme de méditation.
deux beaux garçons dans une voiture, sur des routes écrasées de chaleur, c'était pour vous, Ariane Allard, bien évidemment.
Vous êtes toutes désignées
pour évoquer Trop Détective.
Oui, alors Trop Détective, pour moi, c'est vraiment la grosse claque des sériephiles et des sériephages de 2014, puisque la première saison commence en 2014. Donc comme j'ai peu de temps, je vais laisser aux exégètes le doux plaisir d'analyser les hauts et les bas de ces trois saisons. Moi, je vais m'en tenir à sa première fois. D'abord parce que c'est ma préférée, mais pas seulement, parce que je pense qu'elle pose vraiment les bases, les repères de ce récit au long cours. Pour moi, est absolument bluffant, et de densité, et de profondeur, et de virtuosité. Alors, au départ, ce petit bijou proposé par HBO s'appuie sur un pitch pourtant très familier. C'est-à-dire, c'est un duo de détectives antagonistes, un crime abominable. Et c'est parti pour une enquête absolument tordue, donc classique, hein, puisqu'on est dans un polar, dans un thriller. Sauf que là, le cadre, la Louisiane, ou comme dans la saison 3, la région des Ozarks en Arkansas, hein, est absolument à la fois primitif et fantastique, donc des routes. Sauf que les deux coéquipiers, l'un apparemment stable, l'autre apparemment un peu perché, sont tous les deux au bord du gouffre dans la saison 1, et on retrouve le même procédé dans les saisons suivantes. Et donc, ils sont fascinants. Et sauf qu'ils sont chaque fois incarnés par deux immenses acteurs. Moi, j'ai un petit voilà, une petite préférence, bien sûr, pour la saison 1, avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui sont absolument géniaux. Et dernière chose, qui est vraiment la grande marque de cette série, c'est sa construction temporelle, la construction temporelle du récit qui oscille tout le temps entre plusieurs époques. En général, c'est trois époques différentes. Ça embrouille complètement le spectateur, tout en lui donnant une profondeur incroyable, je trouve, à l'intrigue. La mécanique est géniale. Bref, pour moi, Trou Détective, c'est à la fois du vertige, de la psychanalyse et du conte.
Et elle mérite sa place 18e dans le top 20 d'une heure en série. From the dusty mesa, a looming shadow. Vous aurez reconnu, en tout cas Ariane Allard a reconnu très rapidement et très spontanément la chanson du générique de True Detective, Handsome Family, et leur titre s'appelle Far From Any Road.
France Inter, une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Les paris sont lancés, qui occupe la place numéro 17 ? Alors là, vous allez regretter de ne pas avoir l'image parce que nous avons Marjolaine et Benoît qui sont en train de se trémousser sur place. C'est un tout petit peu embarrassant, mais avec eux,
on y a l'air. C'est intérieur.
Vous aurez reconnu le générique immortel, génial de Buffy contre les vampires. 7 saisons, et ça nous manque 144 épisodes, diffusés entre 1997 et 2003 sur WB, créé par Josh Whedon, notre dieu, notre maître, Firefly à la télévision et au cinéma Avengers, et dont The Nevers, la nouvelle série, sortira d'ailleurs en 2020, et nous risquons d'en parler évidemment dans une heure en série. Lycéenne le jour, chasseuse de vampires la nuit, tel est l'emploi du temps de Buffy Summer, Sarah Michelle Gellar bien sûr, qui au début de la série débarque à Sunnydale, petite ville tranquille où le taux de mortalité par succion de sang atteint des sommets inquiétants, sans que cela ne semble jamais inquiéter personne.
C'est la bouche de l'enfer.
Dis à Giles que j'ai enfin compris et que tout va bien. Dis à mes amis que je les aime. C'est à toi de prendre soin d'eux maintenant. Prends soin de chacun d'entre eux. Il faut que tu sois forte. La chose la plus difficile sur cette terre, c'est d'y vivre. Sois brave. Survie. Pour moi.
Alors nous avons tous ravalé nos larmes, en tout cas tous ceux qui ont un cœur, puisque nous venons d'entendre la fin de la saison 5 où Buffy meurt.
Ceux qui n'ont pas un pieu dedans.
On avait beau savoir qu'il y avait encore une saison 6 et une saison 7, on a quand même chialé comme des malades quand on a su Buffy aller se sacrifier pour tout le monde. Buffy, c'est vraiment derrière les apparences de la série B horrifique à laquelle elle rend souvent hommage, tant dans ses thématiques d'ailleurs que dans sa mise en scène. Il y a vraiment un hommage sur la petitesse de la mise en scène et en même temps les moyens absolument formidables avec lesquels elle s'est mise en scène. C'est un feuilleton qui dit avec infiniment de justesse les troubles de l'adolescence, de la différence, l'éveil à la sexualité et à la conscience politique. Vous ne trouverez jamais de série pour ados qui contiennent autant de sujets passionnants et pertinents. Il est temps maintenant de dévoiler le 16e de ce classement.
Aucune surprise.
Bon, là, aucune surprise. Hein, tout est dans le générique, on est d'accord. Les Simpsons, 31 saisons. À ce jour, série d'animation diffusée depuis le 17 décembre 1989 par la très conservatrice Fox. Ça restera un des grands mystères de la télé, comment une chaîne autant de droite a pu créer une série autant de gauche.
C'est quand même assez extraordinaire. Fox News.
Au 1er décembre 2019, il y avait déjà 671 épisodes et ça n'est pas fini. On va reprendre le titre de Libé qui était absolument parfait. Jaune devant, marrant derrière. Je crois qu'on n'a pas fait mieux à ce jour. Alors, un miroir à peine déformant, hein, de la vie d'un Américain moyen, gras du bide, pauvre en cerveau, Donald Trump, hein, donc avant l'heure, accro à sa bière, absentéiste notoire, mais on tient quand même, hein, et sans réelle autorité sur ses enfants, qui depuis 31 ans, quand même, signalons-le, n'ont pas grandi d'un demi-centimètre. Et il faut dire, Homer Simpson, c'est quand même le parangon d'un politiquement correct de très grand aloi.
Oh mon Dieu, j'ai dansé avec un homo. Marge, Lisa, promettez-moi de le dire à personne. Promets-le-moi.
Homer, tu es ridicule.
Tu crois, Marge, tu crois? Pense à la valeur de la maison. Maintenant, on pourra plus dire qu'il y a que des hétéros qui ont mis les pieds ici.
Franchement, ça me désole que tu penses ça. Parce que John nous a invités à faire une balade aujourd'hui et qu'on va y aller.
Ah, pas moi. Et pas parce que John est homo, mais parce qu'il est sournois. Il aurait pu avoir la politesse de marcher en strémoussant pour que tout le monde sache qu'il est comme ça.
Mais non d'un chien, de quoi tu parles?
Tu me connais, Marge. J'aime ma bière glacée, ma télé à fond et mes homosexuels folles tordus.
Tout est dit, évidemment.
Évidemment, et le doublage est délicieux, hein, faut quand même le dire.
Avacaen, c'est une série pour laquelle vous avez, comme nous tous, une immense passion. Je vous cède donc volontiers la parole.
Il y a tant à dire sur les Simpsons. Alors, à la fois pour ses personnages cultes, pour sa fantaisie, pour son rapport féroce à l'actualité, c'est tout naturel de retrouver cette série dans ce top. Et alors, elle bat des records de longévité, vous l'avez dit. On continue d'aimer les Simpsons, même après plus de 600 épisodes. 30 ans qu'on voit Homer et sa famille dans leur salon, depuis le nôtre, vivre des aventures absolument extraordinaires et ordinaires. extraordinaire aussi. Et ce qui explique la longévité des Simpsons et ce succès constant, bah, c'est justement parce que c'est le miroir déformant, oui, parodique aussi, critique de la société contemporaine américaine. Et Mac Groening, c'est pas seulement un caricaturiste, pas seulement un cartooniste, c'est un fin observateur. Et son pays, il l'a vraiment bien cerné, bien ciblé, les mots qui l'agitent aussi. Et sous couvert de l'animation, de l'humour, du burlesque, eh ben, évidemment, on met le doigt sur des problématiques très sérieuses, la politique, l'éducation, l'écologie, la santé, la sexualité, la religion. Bref, la série met à mal les valeurs. Et quand on demande à Mac Groening quel est son personnage préféré, il répond sans hésiter Homer Simpson, puisqu'il agit selon ses impulsions et ne ressent ni remords ni culpabilité. Oui, c'est un peu le meilleur et le pire de nous-mêmes, Homer Simpson. Et alors, j'ai trois répliques, un top. Ne me mangez pas, j'ai une femme et des enfants, mangez-les. Je ne suis pas en état de conduire, mais attends, faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Et évidemment, oh punaise, voilà. Ce sera tout pour moi.
Inès, merci beaucoup. Eva, je vous épouse comme vous voulez. Et il est temps de révéler la série qui occupe la place numéro 15.
Excusez-moi, madame. Vous êtes Abigail Mitchell, les romans policiers. Il faut que vous sachiez, madame, que c'est pour moi un immense honneur de faire enfin votre connaissance. J'aurais seulement préféré que la chose se fasse dans d'autres circonstances.
Je vous remercie, jeune homme. Vous êtes très galant.
Je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Monsieur Galvin, le défunt, je crois savoir qu'il était votre neveu.
Seulement par alliance, il avait épousé ma nièce.
Oui. Votre secrétaire nous a dit comment votre nièce était morte il y a... pendant une croisière en mer il y a 3 mois.
Ils s'adoraient l'un et l'autre.
Voilà, Marie Sauvion ne peut pas être avec nous, mais elle a eu la gentillesse d'accepter notre invitation par téléphone. Donc Marie, sur Colombo, évidemment, j'avais très envie d'avoir votre réaction, car je sais que c'est une série doublement chère à votre cœur.
Oui, c'est une série que j'aime infiniment, presque autant que je vous aime, vous, les amis d'une heure en série, vous me manquez beaucoup. C'est une série alors que j'aime pour plusieurs raisons. La première, elle est évidente, elle est sentimentale, elle est familiale, elle est archi-personnelle, mais tant pis, c'est pas un secret d'État. Il se trouve que c'est mon père, Serge Sauvion, qui doublait Peter Falk dans la série. Donc c'est à la fois la série de mon enfance, puisque c'est une série que j'ai découverte dans les années 70, et c'est la série qui me rappelle la voix de mon père. Et voilà, et petite, j'avais un peu l'impression d'être la fille de Colombo, et c'était pas mal. Et puis, par ailleurs, c'est une série que j'aime pour toutes ses qualités, et elle en a plein. La première, c'est son originalité, le fait que ce soit effectivement une série criminelle, mais qui est le contraire d'un whodunit, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas qui a fait le coup, puisque c'est la première chose qu'on nous raconte, en fait, dans la série. Il y a ce rituel merveilleux de voir quelqu'un plutôt de puissant, d'argenté, comme ça, qui prépare son coup minutieusement. C'est toujours des gens extrêmement intelligents, extrêmement retors, qui croient planifier le crime parfait. Et puis, bah, ils vont se heurter à un détail. Ce détail, c'est un petit bonhomme qui ressemble à un chiffon, voilà, avec son imper mastic, sa vieille guimbarde française, son cigare, son clébard, et puis ses petites confidences comme ça sur sa femme. J'ai une passion pour Colombo parce qu'il a l'air de rien, que personne ne se méfie jamais de lui, et qu'évidemment c'est un génie, et que quand il est face à un génie du crime, il devient lui le génie de la justice, et c'est un prolétaire, voilà, un petit gars qu'on méprise, qu'on regarde de haut, et puis qui va faire triompher, évidemment, toujours la loi contre des gens extrêmement puissants. Par ailleurs, c'est vrai que la série a un côté vintage que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on se balade dans les plus belles villas de Los Angeles et de Californie chez des gens qui sont tous toubibs, écrivains, hommes d'affaires, etc. Ce sont des crimes qui ne sont pas des crimes de pulsion, c'est-à-dire que ce sont des crimes très réfléchis. On tue qui ? On tue un membre de sa famille pour hériter, on tue un associé pour lui piquer ses parts. Mais tout ça avec des bonnes manières, j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, et puis Loulou, Peter Falk débarque, et puis il va s'en prendre. Alors en plus, les guests sont absolument magnifiques, parce qu'évidemment, il y a John Cassavetes, qui est son ami avec lequel il a une double vie, voilà, dans le cinéma d'auteur. Il y a Gina Roland, il y a Faye Dunaway, Martin Landau, Patrick McNee de Chapeau Melon, Patrick McGowan du Prisonnier. Donc il y a que du people, du beau linge, pour aller se faire passer les menottes, en fait, par Columbo. Et donc, voilà, cette série, qui est une série amie de la nuit, hein, parce qu'il n'y a pas un samedi soir en France depuis presque 50 ans où elle n'est pas rediffusée quelque part. voilà, donc on peut rentrer de soirée, un peu ivre, et s'assoupir gentiment, au rythme pépère, très tranquille, évidemment, hein, c'est une série d'un autre temps, de Columbo, qui ne nous fait jamais défaut.
Je suis entièrement d'accord avec vous, chère Marie. Nous aussi, on vous aime. Nous aussi, on vous réclame pour 2020 dans Une Heure en Série, et j'espère vraiment avoir le plaisir de vous accueillir à cette table. On vous embrasse tous. Merci Marie, à très bientôt.
Plein de baisers, bye bye.
Columbo, ça a été 69 épisodes quand même, diffusés entre 68 et 2003, soit sur 35 ans. Donc il y a une vraie évolution en plus du personnage, créé par Richard Levinson et William Link, qui ont créé également...
Arabesque.
Bravo Benoît Lagan, vous serez augmenté, enfin un jour peut-être, n'exagérons pas. Marie a cité la liste de guests, mais on oublie aussi la liste des réalisateurs qui se sont un tout petit peu fait la main sur la série Columbo. Et pardonnez-moi du peu, il y a quand même de grands noms, Jonathan Demme, Steven Spielberg, John Cassavetes, qui est effectivement un guest, mais qui a également réalisé des épisodes, ainsi que Patrick McGowan, je crois qu'il a réalisé deux épisodes d'ailleurs, qui était le créateur du Prisonnier. Donc Columbo, une excellente série qui méritait tout à fait d'être dans le top 20 d'Une Heure en Série.
Qui a dit qu'on le referait une autre fois ? Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt, je sens plus ma langue, mord le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Le désir passe, je suis pas sûr qu'il ait bien fait s'avancer d'un pas. Elle refuse puis elle cède un peu, ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas. Bien sûr il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie, baisse-moi avec de l'amour hippie. T'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme, j'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un goujat. Qui peut se moquer durant toute la vraiment gaine, ce monde est froid comme ok, glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain.
Après l'homme chiffon, l'homme pâle, qui nous interprétait, qui nous interprétait, regarde-moi, et qui fait partie de la playlist de France Inter.
France Inter, Une Heure en Série. Les 20 meilleures séries de tous les temps.
Et nous continuons le décompte de ce top 20. On va rappeler qui est autour de la table aujourd'hui. Isabelle Danel, Benoît Lagan, Christine Haas, Marjolaine Boutet, Ava Kaen et Ariane Allard qui ont voté, mais pas simplement elle et eux. Benoît va encore hurler parce que je féminise. Mais voilà, ça change nombre de gens ont voté pour ce top 20. Et nous allons dévoiler dans une poignée de secondes maintenant la série qui occupe la place 14 sur ce podium.
Thank you.
cette petite musique qui égrène, qui nous plonge dans un état second d'anxiété. Évidemment, vous aurez reconnu
la quatrième dimension.
J'ai cru que vous dormiez tous. 138 épisodes, 25 minutes, plus 18 épisodes de 50 minutes. J'ai bien travaillé quand même, créé par Rod Sterling et qui furent diffusés entre 59 et 64 pour CBS. Alors, on va vous faire grâce des remakes, des sequels, des machins, des trucs.
On parle
vraiment
l'original.
De la série originale et on en écoute tout de suite un petit extrait.
Un clown, un vagabond, une ballerine, un joueur de cornemuse et un commandant. Une collection de points d'interrogation, cinq personnages dissemblables unis dans un puits obscur, sans logique, sans raison, sans explication. Ni logique ni explication qui soit rationnelle, rien qu'un cauchemar qui n'en finit pas. La peur qui vous étreint, une horreur inexplicable, l'horreur de l'inconnu, la mort dans l'ombre. C'est au moment où vous croyez découvrir la solution que vous la voyez vous échapper, car vous êtes fort loin de la rive de la connaissance, vous êtes dans l'inconnu, vous êtes seul dans la quatrième dimension.
Je ne vais pas la ramener, mais moi, chaque samedi avec vous, je suis un peu dans la quatrième dimension en me disant qu'est-ce qu'ils vont encore sortir.
Mais qui est le clown
et qui est la ballerine. Mais néanmoins, j'ai pour me sauver Marjolaine Boutet, comme ça, qui va être notre phare dans la quatrième dimension. C'est vrai que vous connaissez par cœur. Je crois même que vous avez réussi à reconnaître pratiquement l'épisode dont
oui,
on vient
c'est
de diffuser
un extrait. Alors, je connais le titre en anglais, mais c'est 5 personnages en quête de sortie.
Voilà, absolument. Voilà. Well done, Marjolaine, la quatrième dimension.
Donc, oui, c'est un vrai chef-d'œuvre. Parce que c'est un classique de 60 ans qui n'a pas pris une ride, il faut le dire, grâce au sublime
noir et blanc. On en a autour de
la
table, mais je ne donnerai pas de nom. Hein. Des classiques de 60 ans qui n'ont pas pris une ride.
Ça suffit.
Oh, ça va Isabelle, je ne parlais pas de vous.
Et ça n'a pas pris une ride comme tous les classiques, grâce à un sublime noir et blanc, parce que ça ne vieillit pas, et des scénarios au cordeau particulièrement grinçants, parmi mes préférés. Il y a Time Enough at Last, enfin du temps, qui raconte l'histoire d'un employé de banque misanthrope qui se réjouit d'être le seul survivant d'une catastrophe nucléaire et d'enfin avoir le temps de lire tous les livres qu'il veut jusqu'au moment où il casse ses lunettes.
C'est génial.
Deuxième épisode que je préfère vraiment, The Shelter, donc l'abri, c'est l'épisode 3 de la saison 3. Où toute une joyeuse bande d'amis et de voisins est réunie pour fêter l'anniversaire de leur médecin de famille et préfère finalement détruire l'abri anti-nucléaire que ce médecin donc, qui a accouché leurs enfants, qui leur a sauvé la vie, etc. Préfère détruire cet abri que ce médecin a construit pour lui et sa famille plutôt que d'accepter l'idée qu'ils pourraient survivre à l'apocalypse et pas eux. Et je trouve que ça raconte évidemment des choses sur la guerre froide, mais ça raconte des choses extrêmement justes sur l'humanité. Voilà, c'est évidemment, c'est pas gay, mais c'est toujours des moments de réflexion très très grinçants et très justes sur ce qui fait l'humanité finalement.
La quatrième dimension par Marjolaine Boutet. Merci beaucoup. Qui occupe la place, parfois peu enviée, mais la fort désirable évidemment, la 13e place de notre top 20. Alors, vous êtes assoupi ?
Non.
Le bureau des légendes.
Le bureau des légendes, bravo Isabelle Donnel, vous avez donc gagné le droit de la défendre dans quelques instants. Une série diffusée sur Canal+, depuis 2015, créée par Éric Rochant, 40 épisodes à ce jour, 4 saisons à ce jour, mais une cinquième est en préparation. Et en 2016, le Bureau des Légendes est devenu la série française ayant engendré le plus de revenus à l'étranger. Alors évidemment, c'est du pur mercantilisme, ça mérite quand même d'être signalé. Dans les rôles principaux, Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudeau, Florence Moireka, j'en oublie bien évidemment énormément, à la DGSE, le Bureau des Légendes, forme des agents qui agissent sous couverture aux quatre coins du monde, sous de fausses identités. J'ai quelques hypothèses en ce qui vous concerne, mais enfin bon, leur mission recruter des informateurs à l'étranger.
Quand Cyclone parle de l'avocat Mathieu Coujard à Yacine Boumaza, est-ce que celui-ci se doute déjà de quelque chose ? Est-ce que c'est la sœur qui se doute que les flics sont déjà sur eux ? En tout cas, elle vient voir Raymond. Elle vient renifler. Elle vient se faire sa propre idée. C'est peut-être un vrai avocat, peut-être pas. Elle appelle son frère. Mais là, elle utilise un code. Maman est malade. Ça veut dire qu'elle soupçonne déjà qu'elle est sur écoute. Toufik lui avait dit, fais attention, ils vont être très malins, ils vont te suivre à la trace, ils vont connaître tous tes téléphones. On va établir une autre façon de se parler. Et là, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, le flic veut me piéger ? Très bien, fais-le venir, on va te faire un flic. flics, DGSE, DGSI, il sait pas qui en est, il s'en fout.
Isabelle Danel, vous avez donc gagné le droit de défendre le bureau des légendes. Vous l'aviez déjà fait dans une précédente émission. Vous méritiez donc de revenir un tout petit peu sur cette excellente série française.
En deuxième semaine. Le bureau des légendes, c'est de l'espionnage, du politique et de l'humain réunis par une écriture brillante, sans faille, orchestrée par Éric Rochant. On sillonne le monde et les enjeux géopolitiques récents de la Syrie à l'Iran, de l'Algérie à la Russie. Mais surtout, on suit le destin d'une poignée de personnages complexes, vivants, attachants, et notamment de la nouvelle recrue Marina Loiseau, qui allaiterait le jeu singulier de Sarah Giraudeau, et de Guillaume, interprété avec densité par Mathieu Kassovitz, espion à la DGSE, qui a tellement appris à mentir qu'il n'a pas su s'arrêter une fois sa mission terminée. Bon, certes, il l'a fait par amour, hein. Mais ceci entraînant cela, il est devenu un problème pour tous ses collègues, ceux qui l'ont couvert, ceux qui le couvrent encore. Dans la quatrième saison, il est même qualifié de virus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'irrépressible dans cette série qui en fait une des grandes réussites françaises de ces dernières années.
Tout à fait, d'accord, chère Isabelle. On a un petit peu de temps là, je pensais qu'on serait plus court. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à son tour sur le bureau des gens
qui... Non, mais moi je voulais juste dire un mot sur Sarah Giraudeau, que je trouve vraiment formidable dans cette série, notamment parce qu'elle a une toute petite voix. Ouais. Elle a cette petite voix pointue qui en fait joue en sa faveur, parce qu'on ne se méfie pas. On se dit qu'est-ce que c'est que ce petit oiseau à peine tombé de la branche. Il va lui arriver des choses épouvantables. Et en fait, elle se débrouille de manière absolument incroyable et elle fait beaucoup pour la série.
Ben ouais. Et puis ce qui était vraiment bien quand on a découvert le Bureau des Légendes, c'est que des séries d'espionnage, on en a vu quand même un sacré paquet. Et que donc du coup, avec cette série française qui débarquait, on se demandait qu'est-ce que la France allait pouvoir apporter de plus. Et elle a apporté quelque chose, c'est-à-dire une série d'espionnage de bureau. Vraiment, d'où le titre. Et c'est ça qui a vraiment donné du peps à cette série, c'est-à-dire rendre attrayant la vie des espions qui restent derrière leurs ordinateurs. Parce que certes, ça part partout dans le monde, mais c'est aussi ça l'intérêt de la série.
Est-ce que c'est dû à une technique d'écriture un peu particulière, en tout cas dans l'histoire de l'écriture de la série française, Marjolaine,
oui, alors c'est une série
américaine, on va dire.
À l'américaine, dans le sens où il y a effectivement Éric Rochant qui est un showrunner qui supervise à la fois l'écriture et la réalisation. Mais moi, j'aurais voulu insister aussi sur le fait que c'est une série qui parle vraiment très finement du monde contemporain, qui nous reconstitue l'Iran ou la Russie comme si on y était. Et c'est absolument incroyable qu'il arrive à nous rendre compréhensible ce qu'est que la guerre informatique.
Bureau des légendes 13e, donc du palmarès. Il est temps de révéler la 12e place.
Un type dans une bagnole.
Mais alors, c'est entre quoi New York, rêve, Benoît Lagan. Je vais faire les voix off des bandes de l'annonce. Ouais. Ouais.
Il fait une audio description.
Avec un petit côté dégoulinant. Ouais. Et généralement vendant complètement autre chose.
Yes.
Ouais, voilà. Tout ça ne nous dit absolument pas le titre de la série.
Le soprano.
Bah, me prenez pas comme ça.
Mais il est presque vexé là.
Ouais, ouais. Vous êtes quand même payé pour dire le nom de la série. Chouette, enfin une bonne nouvelle. C'est une menace ou une promesse? Les Sopranos, 86 épisodes diffusés entre 1999 et 2007, soit 6 saisons, vous l'aurez bien calculé, sur HBO. Il faut quand même reconnaître que beaucoup de séries de HBO figurent déjà, mais tout n'est pas fini, bien évidemment, dans notre top 20. Tony Soprano, le regretté James Gandolfini, souffre de crises, de panique et d'angoisse. C'est un peu comme moi avant l'enregistrement d'émission, c'est drôle.
On y est tous,
je m'identifie complètement. Il décide d'aller voir un psy sans révéler ce secret un peu honteux à sa famille et tout en continuant ses activités très lucratives de gangster mafieux. On écoute quelques instants d'un extrait.
Monsieur Soprano ?
Oui.
Je vous en prie, asseyez-vous. D'après le docteur Cusamano, votre médecin de famille, j'ai cru comprendre que ces derniers temps, vous vous étiez évanoui à la suite d'une angoisse subite et que vous ne pouviez plus respirer.
Ce sont eux qui ont parlé d'angoisse parce que tous les examens et autres analyses n'ont rien mis en évidence. C'est ce qui fait que je suis là.
Vous refusez d'admettre que ça puisse être de l'angoisse. Comment vous vous sentez là ?
Bien. Ça va. Je suis reparti.
Quel métier exercez-vous ?
Je suis conseiller en traitement des déchets. Il est vraiment difficile pour moi de parler à un analyste.
Alors, un mafieux, une carrière illicite, des secrets dissimulés à tous, ça aurait concerné beaucoup d'entre vous, mais c'est Christine Haas qui a remporté effectivement le droit de défendre les Sopranos.
Absolument, une place bien décevante, je dirais, même pour cette plus grande série de tous les temps, selon les fans. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que les Sopranos, moi, c'est une des séries qui m'a le plus émue, parce qu'elle raconte la crise existentielle d'un parrain du New Jersey qui embrasse, ou qui essaye d'embrasser en tout cas, la double casquette de chef de famille et de big boss. Alors, très loin de la violence excessive du genre mafieux, le récit s'attache à la psychologie des personnages à travers un rythme unique et crée un nouveau genre de série dite contemplative, qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans une autre série qui s'appelle Mad Men, qui s'en est pas mal inspirée. Donc c'est vrai que cette expérience inédite confronte le spectateur à une riche palette d'émotions et à partir d'un personnage qui a priori n'était pas très glamour, James Gandolfini compose l'un des héros les plus attachants de l'histoire de la télévision. L'audace de son auteur, David Chase, a laissé sa marque sur toute la pop culture, je n'hésite pas à le dire, sans doute parce qu'il ne s'est jamais soucié des conventions, bifurquant d'une saison à l'autre pour aller là où on ne l'attendait jamais, jusqu'à la fin énigmatique de ces 86 épisodes qui nous a pris par surprise et qui continue de faire parler.
Soprano, vous êtes d'accord avec l'opinion de Christine, la plus grande série de tous les temps, même si elle n'est, je le rappelle, que 12e du top 20, désolé.
Oh, ce qui est pas mal quand même.
Attends, on y est déjà, on est bien
c'est
d'accord.
C'est la première plus grande série de tous les temps.
Diplomate.
C'est vrai qu'elle arrive à un moment dans l'histoire de la télévision qui est assez...
Elle a marqué l'histoire de la télévision, notamment c'est la première série qui a été diffusée au MoMA à New York, donc dans le temple de l'art contemporain.
Oui, c'est-à-dire que c'est une série qui va tout d'un coup montrer, notamment à un public intellectuel, que la série, ça peut avoir de la gueule, alors que jusqu'à présent, elle l'a regardée un petit peu avec dédain. Donc c'est ce qui fait que cette série change. Mais moi, je trouve que 12e position quand même sur 20, quand on sait le nombre de productions qu'il y a dans l'histoire de la télévision et aujourd'hui des plateformes, je pense que 12e, c'est quand même bien, parce que il y a eu souvent une querelle chez les amateurs de séries de HBO entre ceux qui étaient Six Feet Under et ceux qui étaient les Sopranos. Moi, j'ai toujours été plus Six Feet Under parce que je trouvais que c'était une série beaucoup plus télévisuelle, alors que Les Sopranos étaient une série beaucoup plus cinématographique. Ce qui n'empêche pas que les deux séries sont très bonnes, mais sont, du coup, offrent des approches très différentes. Voilà, 12e place, moi je suis plutôt d'accord. Bad sound with a blue moon in your eye. And you
Et vous avez reconnu la chanson qui sert donc de générique au soprano dans son intégralité. Le titre s'intitule « Woke Up This Morning » et c'est interprété par Alabama 3.
France Inter, une heure en série, les 20 meilleures séries de tous les temps.
Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour dévoiler la fin de la première partie de ce top 20. Donc nous arrivons à la place numéro 11. Et quelle est la série qui occupe cette place fort convoité. Une télé-novella.
Mais ça met en jambe. Je suis devant un bus. Moi, je vais faire comme Benoît.
Quand on m'avait recommandé Benoît Lagarde, on m'a dit en plus, il est drôle. Je crois que je me suis fait un petit peu avoir. Bon, enfin bon, je me fais rire. C'est bien ça. Je crois que votre maman aime beaucoup ce que vous faites. Vous avez reconnu évidemment Sex and the City. 94 épisodes, 6 saisons, suivis quand même de 2 films affligeants, disons les choses telles qu'elles sont. C'était une catastrophe, la série fut diffusée entre 98 et 2004. Elle a eu droit à un préquel raté, embarrassant, créé par Darren Star, non pas le préquel mais la série, et diffusée par HBO. Alors, c'est quand même le résumé le plus rapide de l'histoire du résumé, disons les choses. Le portrait de 4 New-Yorkaises accros tout au shopping, à la mode, à l'amour pour certaines, ou au sexe compulsif, suivez mon regard, pour d'autres. D'ailleurs, on a gardé un extrait, comment dire, très poétique, très classe.
Évocateur.
Allô ?
Je me suis vraiment fait baiser.
T'as un problème ?
Non, je veux dire littéralement, je me suis fait baiser de toutes les façons dont on peut l'être.
Continue à parler comme ça et je prends ton numéro de carte bleue. Pendant que je cherchais mes cigarettes, Samantha se mit à me faire un compte-rendu détaillé de sa nuit avec John. Sans hache et sans inhibition.
On l'a fait avec lui dessus. Moi dessus. Moi à plat ventre.
Lui à plat ventre.
Oh oui. À la Duc d'Aumale, à la Hussarde, dans le Vrette.
Tu as déjà essayé?
À cette heure-ci, je refuse d'y penser.
Oh, tu devrais faire un effort. Oh, c'est fantastique. Ces jeunes de 20 ans sont pleins de ressources.
Comment ça s'est passé? Avec Sam.
On s'est embrassé.
Alors, moi qui suis très prude, évidemment, et qui n'ai pas compris la moitié de ce qui vient d'être
dit,
la position du duc d'Aumale, quelqu'un connaît.
Je vais le demander un autre jour, ce brave duc.
C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, alors si un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, là-dessus, je laisse vraiment les spécialistes se prononcer. C'est ce qu'est la position du duc d'Aumale. Je regarde en régie, quelqu'un a une idée? Personne. Bon, on fera tous nos recherches au week-end, à nos devoirs, absolument. Alors, on l'a dit, accro à l'amour pour certains, au sexe compulsif pour d'autres. Il y en avait une parmi nous qui, j'allais dire, répondait à ces deux définitions.
Je ne sais pas comment je vais le prendre.
C'est à vous, Ava.
C'est une série que je ne me lasse pas de revoir, vraiment. Elle est jubilatoire, elle a quelque chose de très décomplexé. Je l'ai découverte à l'adolescence. Elle a été diffusée, comme vous le rappeliez, à la fin des années 90. On y voit donc des femmes trentenaires, héroïnes de tout un show, célibataires, battantes, intelligentes, indépendantes, actives, dans tous les sens du terme. On l'a bien entendu, qui évolue dans un univers bourgeois. Quel cliché un petit peu persistant, donc des femmes qui partout dans New York, alors dans les bars, dans les restos, dans les hôtels, dans les boîtes, dans les appartements, parlent sans tabou de sexualité, mais surtout de leur sexualité. Et c'est ça la véritable révolution pour cette série. Alors, vous l'avez rappelé, c'est Darren Star effectivement qui est derrière tout ça. C'est le showrunner de Beverly Hills et de Melrose Place, il faut le rappeler. Et c'était des soaps un peu plus polissées, un peu plus moralisateurs sur les bords, alors que là, Sex and the City, ça joue pas du tout dans la même catégorie. C'est une série qui n'a jamais eu froid aux yeux. Elle est drôle, elle est inventive, elle est intime, elle est crue, elle est queer. Ça parle de la condition féminine dans la société moderne et du point de vue des femmes. Et à sa manière, je trouve que c'est une série qui a combattu le puritanisme américain, qui a cassé du cliché et les schémas patriarcaux et ce qui a prôné une forme d'égalitarisme. Et moi, mon personnage préféré, je vous le cache pas, c'est Samantha, évidemment. L'iconique Kim Cattrall, vraiment, quelle actrice formidable. Elle volerait presque la vedette à Carrie Bradshaw. Shaw, donc qui est l'héroïne de ce show, inspirante, forte, libertine, un personnage complet et peut-être le plus complexe de cette série, qui ne s'adresse pas que d'ailleurs à un public féminin. Hein. Non. Non,
mais ce qui est intéressant avec les deux séries qu'on a citées, The Soprano et Sex and the City, c'est que c'est des séries de HBO toutes les deux, que c'est des séries qui viennent un peu bouleverser les choses dans la représentation de ces univers, que ce soit la mafia avec les Sopranos ou là, le monde féminin et la vie new-yorkaise. Et le problème de HBO, c'est que depuis, ils cherchent à courir derrière de nouvelles séries qui pourraient renouveler encore le genre. Ouais. Et ils n'y arrivent pas. Et la sexualité, justement, telle qu'elle est montrée dans Sex and the City, elle est géniale parce qu'elle est drôle, elle est inventive, elle dit des choses. Et il y a du propos, alors que depuis, souvent, les séries HBO veulent nous mettre de la sexualité juste pour faire
c'est
comme.
C'est pas trash, ni gratuit, ni quoi que ce soit. Oui, bien sûr.
Mais cette perte d'inspiration de HBO était soulignée par Marjolaine il y a 15 jours, me semble-t-il, lorsque vous évoquiez Catherine the Great, produite par HBO, et qui n'était vraiment plus porteuse de ce qui a fait la gloire de HBO.
Mais effectivement, mais HBO a cassé les codes à la fin des années 90 parce que précisément les séries des networks étaient en train de progresser. Hein. Il y a eu très très bonnes séries dans les années 90, mais HBO avait la promesse de nous montrer du sexe, de la violence et des gros mots et ont eu l'intelligence de prendre les grands genres du cinéma. Alors les Sopranos, c'est le film de gangster, mais Sex and the City aussi, c'est la comédie romantique parce que New York, c'est la ville de la comédie romantique où précisément on n'a pas des femmes qui cherchent forcément l'amour ou The One, même
non,
si
on cherche des orgasmes.
Même
ça
si que... finalement la fin de la série est quand même assez conventionnelle
vie,
et chacun a chacun sa chacune, mais
ou sa chacune son chacun. Sont chacun, parce que
chacun
là-dessus,
son chat,
grande diversité de propositions quand même.
Diversité de propositions. Alors, on reste quand même chez les blancs et les riches et le meilleur ami homosexuel qui est un peu devenu un cliché depuis dans les comédies. Mais malgré tout, effectivement, c'est une série libératrice, jubilatoire et qui donne la parole
extrêmement
aux femmes.
Drôle. Extrêmement.
Extrêmement drôle et bien écrite et bien jouée. Alors moi, mon personnage préféré, c'est Miranda.
Je cède la parole à Ariane tout de suite. Je vais simplement vous signaler que Marie-Annick Rimbaud, notre réalisatrice, qui connaît par cœur Candice Renoir, c'est également une spécialiste de la position du duc d'Aumale. Elle m'a donc précisé que c'était une position sexuelle de chevauchement dans laquelle l'un des partenaires est allongé sur le dos tandis que l'autre est assis dessus, de dos. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est la meilleure position pour coucher et regarder une série ensemble.
Voilà.
Si je visualise bien, voilà. Et maintenant, il est temps de passer la parole après ce grand moment de poésie.
Ça va être compliqué de passer juste derrière, quand même.
Et dans la famille sexuelle, vous en êtes capable, je vous connais, Ariane. Alors, passez derrière.
Non, mais je voulais juste rajouter une chose par rapport à cette série, c'est qu'au départ, l'écriture, elle est assez classique et conventionnelle, puisqu'en fait, chacune de ces femmes endosse une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a la femme au foyer, il y a la working girl, il y a la fille très dessalée, et il y a la fille romantique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que précisément toutes ces femmes, alors que d'ordinaire, dans les séries jusqu'alors, les seules filles et les seules femmes qui parlaient de cul, c'était quand même les filles dessalées, un peu rebelles, etc. Là, toutes vont en parler, et toutes chacune à leur façon, et donc chaque fois, c'est une facette envisagée d'un point de vue différent. Je pense que c'est ça qui est aussi la richesse de cette série, c'est qu'on a réussi, avec un ingrédient assez classique, à formuler des choses qui jusqu'à présent n'avaient jamais été dites.
Et juste une chose, dire que quand même, HBO peut faire ça, parce que c'est une chaîne, pour ceux qui ne savent pas, une chaîne câblée, qu'il faut payer pour ça, et que donc, elle est moins susceptible d'être coupée et interdite de thématiques. Et c'est pour ça que ces séries arrivent aussi. Hein, parce
vous
que...
n'allez pas laisser un homme avoir le dernier mot sur Sex and the City.
C'est difficile avec Benoît, c'est impossible.
Ce qui était amusant, aussi dans cette série, justement, c'est la manière dont ils chosifient les hommes à leur manière, et que ce soit le personnage de Mr. Big, que ce soit Baryshnikov, véritablement le mot Mr. Big est un indice en soi.
Préciser.
Et effectivement, ils sont chosifiés, ce qui n'avait pas encore été fait.
La musique démarre, cela signifie donc que ce premier épisode, cette mini-série consacrée au top 20 des 20 meilleures séries de tous les temps, est en train de s'achever. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de ce palmarès. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier épisode. Si vous voulez le réécouter en podcast, bien évidemment, vous nous retrouvez sur le site internet de l'émission. Une heure en série était réalisée comme chaque semaine par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Kaldi, et à la technique ce soir, Arthur Le Breton.